VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, bonjour à tous. Il est 11h à Lomé et en temps universel. Le président américain Donald Trump a débuté aujourd'hui en Inde une visite d'État de 2 jours. Le géant d'Asie du Sud lui a concocté un accueil haut en couleur avec un meeting géant aux côtés du premier ministre Narendra Modi, Alan Alberson.
Le président américain a été accueilli sur son parcours par des milliers d'Indiens, loin toutefois des millions et des millions de personnes dont il avait parlé avant sa venue en évoquant le plus gros événement que l'Inde jamais connu. La première journée de ce déplacement est l'occasion d'un pas de deux soigneusement chorégraphié entre le président américain et le premier ministre indien. Les deux hommes mettent en scène leur alchimie personnelle dans un contexte de friction commerciale causée par leur protectionnisme respectif. Responsables indiens et américains se réservent les discussions sur le fond des dossiers pour la série d'entretiens bilatéraux mardi à New Delhi. L'Inde est un allié stratégique en Asie pour les États-Unis qui voit en elle un potentiel contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région. La venue de Donald Trump en Inde ne devrait pas être l'occasion d'annonces majeures. Les deux pays sont engagés dans un bras de fer commercial depuis l'année dernière, mais faute de terrain d'entente à ce jour, aucun grand accord commercial ne devrait être conclu lors de cette visite.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est alarmé aujourd'hui de voir les droits humains pris d'assaut de toutes parts dans le monde, tout particulièrement pour les femmes, avec notamment des niveaux alarmants de féminicide. Le droit de l'homme font face à des défis croissants, a lancé M. Guterres à l'ouverture de la session annuelle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, en ajoutant qu'aucun pays n'est à l'abri face à cette dérive. Le secrétaire général de l'ONU n'a cité aucun pays en particulier dans son discours, même s'il a fait des allusions ou des situations comme le conflit en Syrie ou le sort des migrants voulant se rendre en Europe. Le nouveau coronavirus a forcé hier la Corée du Sud à proclamer l'état d'alerte maximum, l'Italie à mettre des villes en quarantaine et plusieurs pays à fermer leurs frontières. Claire Morin-Gibou.
Avec 602 cas de contamination et 6 décès, la Corée du Sud compte le plus grand nombre de malades sur son sol après la Chine. Face à cette propagation rapide, le président sud-coréen Moon Jae-in a relevé au plus haut le niveau d'alerte. Selon lui, l'épidémie de Covid-19 est à un tournant décisif. Les prochains jours seront cruciaux. C'est la plus grave urgence sanitaire depuis 1949, a déclaré le président chinois Xi Jinping, tout en reconnaissant des lacunes dans la réponse à l'épidémie. La multiplication des cas en Iran, 43 au total dont 8 décès, inquiète l'Arménie, la Turquie, la Jordanie, le Pakistan et l'Afghanistan qui ont fermé leurs frontières ou restreint les échanges avec ce pays. En Europe, avec 149 cas et 3 décès, les autorités italiennes ont confiné 52 000 personnes en Lombardie et en Vénétie, dans le nord du pays. C'est une première en Europe. Lors d'une réunion du G20 en Arabie Saoudite, la directrice du Fonds monétaire international a estimé que le virus Covid-19 a perturbé l'activité économique en Chine et pourrait mettre en péril la reprise de l'économie mondiale.
Au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé a été réélu à un quatrième mandat dès le premier tour de l'élection du 22 février. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Les précisions de notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Hermanoumbo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le cacao annoncé par l'UNIR, l'Union pour la République, a été confirmé par les résultats publiés hier soir par la CENI. Le président sortant Faure Gnassingbé est réélu dès le premier tour avec 72,36% des suffrages exprimés. Tchambakou Ayassor, président de la CENI.
Ainsi donc, au vu de tous les résultats centralisés sur la base des procès-verbaux obtenus des commissions électorales locales indépendantes, les CELI, et des commissions électorales d'ambassade indépendantes, les CHEAI, le candidat du parti Union pour la République UNIR, M. Gnassingbé Sozimna Faure, est proclamé provisoirement élu président de la République.
L'ancien premier ministre Agbeyome Kodjo n'a recueilli que 18,37% des suffrages selon ses résultats provisoires de la CENI. Peu avant la publication des résultats du scrutin, il s'est autoproclamé président élu, Agbeyome Kodjo.
Nous avons gagné cette élection présidentielle du 22 février 2020 au premier tour avec un score oscillant entre 57 et 61%. Dès l'instant, je deviens le président démocratiquement élu et je m'engage à former un gouvernement inclusif.
L'ancien chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, n'a obtenu que 4,35% des voix. Le taux de participation est de 76,63%. C'est pour la première fois dans l'histoire du Togo que la diaspora a pu exprimer son droit de vote. Irénée Herman Humba, Lomé, VOA Afrique.
Merci René. C'est la première fois également que des résultats sont annoncés aussi rapidement au Togo, à peine plus de 24 heures après le scrutin présidentiel. Agbeyome Kodjo, candidat de l'opposition, arrivé à la seconde place de l'élection présidentielle au Togo, selon les chiffres officiels, derrière le président sortant, Faure Gnassingbé, a encore appelé aujourd'hui le peuple à défendre la vérité des urnes. Mais les rues de Lomé, la capitale, sont restées très calmes ce lundi matin. Et d'après l'AFP, tout le monde vaquait à ses occupations comme d'accoutumée. La vie a également repris son cours après ce week-end électoral à Sokodé, deuxième ville du pays, d'où étaient parties les manifestations anti-pouvoir de 2017. De son côté, le président sortant, Faure Gnassingbé, n'a fait aucun discours, mais a fêté sa victoire, annoncée au milieu de la nuit, dans un village présidentiel construit non loin de la présidence de Lomé pour la campagne électorale. Le candidat à la présidentielle en Guinée-Bissau, donné vainqueur par la Commission électorale nationale, Oumaro Sissoko Embalo, a affirmé dimanche qu'il sera investi jeudi, le 27 février. La victoire de M. Embalo, issu de l'opposition, est contestée par son rival Domingos Simoes Pereira. Ce dernier a saisi la Cour suprême, mais plusieurs arrêts de la haute juridiction n'ont pas permis de trancher définitivement le contentieux électoral. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a déjà félicité M. Embalo pour sa victoire, a haussé le ton samedi en avertissant que des sanctions pourront être prises contre tous les acteurs qui n'agiraient pas dans le sens de la normalisation politique et institutionnelle en Guinée-Bissau. Au Mali, au moins 4 soldats ont été tués et 8 autres blessés dimanche lors de l'attaque d'un camp de l'armée dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays. Claire Morin-Gibou.
C'est sur Twitter que l'armée malienne a confirmé l'attaque par de présumés djihadistes du poste de Bambara Maoudé à une centaine de kilomètres au sud de Tombouctou. Les blessés ont été héliportés sur Sévaré. Avec l'intervention de l'aviation malienne, appuyée par Barkhane et la MINUSMA, le poste est sous contrôle, a pour sa part déclaré toujours sur Twitter le ministre de la Communication, Yaya Sangaré. Selon un élu local, les terroristes sont partis avec des véhicules et du matériel militaire, mais aussi avec des corps de leurs camarades tués. Le bilan du côté des assaillants n'est pas connu, selon le colonel Boubacar Sanogo, commandant de la région militaire de Tombouctou, où un bataillon de l'armée malienne reconstitué a pris ses quartiers il y a quelques jours. La force française Barkhane vient d'annoncer son passage de 4500 à 5100 hommes d'ici à fin février dans l'espoir d'inverser le rapport de force sur le terrain alors que les groupes djihadistes multiplient depuis quelques mois les attaques au Sahel.
Le procureur d'un tribunal d'Alger a requis un an de prison ferme contre Fodil Boumala, opposant et figure de la contestation qui agite l'Algérie depuis un an, jugé notamment pour atteinte à l'intégrité du territoire, a annoncé aujourd'hui une association. M. Boumala a comparu durant 16 heures devant un tribunal d'une banlieue d'Alger qui a renvoyé tard dans la nuit son verdict au 1er mars, selon le Comité national pour la libération des détenus. En détention provisoire depuis son arrestation mi-septembre, M. Boumala était jugé, selon le CNLD, pour atteinte à l'intégrité du territoire, crime passible de 10 ans de prison ferme et diffusion de publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national, délit pour lequel il encourt un an de prison. En Éthiopie, un attentat à la bombe pendant un rassemblement de soutien au premier ministre Abiy Ahmed a fait 29 blessés dimanche. Le meeting était organisé dans la ville d'Ambo, située à environ 100 km à l'ouest de la capitale Addis Abeba, M. Abiy, n'assistait pas à ce rassemblement. Et puis l'armée congolaise a affirmé dimanche avoir tué 6 membres du groupe des forces démocratiques alliées, les ADF, dans 2 offensives ciblant ces milices accusées d'être responsables du massacre de près de 400 civils depuis novembre 2019 dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Jeudi, le Conseil des ministres a accusé des Maïmaï de s'être constitués en supplétifs des ADF dans la région de Beni. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Marie-Francisque avec vous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.